Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Chapitre 12, versets 29 à 31. 28 à 31. Un des scribes qui les avait entendus discuter et voyant que Jésus avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est un seul Seigneur et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Et nous lirons encore dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Dans Romains au chapitre 13 et au verset 8, il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a accompli la loi. Celui qui aime son prochain a accompli la loi. Autrement dit, je ne peux pas aimer mon prochain, mes prochains, tous mes prochains, sans aimer Dieu d'abord. Car il y a tant de gens qui ne sont pas aimables. Et c'est contre nature. Tout ce que Dieu nous demande, c'est contre nature. Il nous demande le possible. Est-ce un Dieu d'amour, ça? Il nous demande le possible. Oui, mais il rend l'impossible possible. Car il est celui qui rend la chose possible à des créatures telles que nous sommes. Proverbe 14, 21, il est dit, « Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui prend pitié des malheureux. » Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui prend pitié des malheureux. Vous allez dire, « Mais écoutez, pasteur, voilà, déjà trois dimanches que vous nous lisez le même passage de l'Écriture. Y a-t-il pas d'autres passages dans l'Écriture à lire? Il y en a plein. Mais qui peut puiser l'Écriture? Qui épuiser l'Écriture? Qui peut épuiser l'Écriture qui puisse dire, qui est capable de dire, avoir la prétention de dire, voilà, j'ai vidé tout le texte de sa signification, maintenant c'est terminé, je vous ai tout dit, bon, passons à autre chose. Non, j'en suis incapable. Et même si c'est le troisième dimanche que nous prenons le même texte, je sais que je ne vais pas l'épuiser. Qui suis-je? La pensée de Dieu est insondable. La pensée de Dieu, on peut la sonder qu'un petit peu, insondable façon de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la sonder jusqu'au fond, dans ce sens-là. Mais on peut la sonder quelque peu. Alléluia! Car il nous a donné son esprit. Et cette pensée de Dieu nous est révélée. Nous est révélée par l'esprit, à travers sa parole. Et c'est ainsi que, d'une façon imparfaite, maladroite, mais d'une certaine façon, nous arrivons à sonder un petit peu, pas jusqu'au fond. Nous sommes trop petits, je suis trop petit, trop incapable. Mais Seigneur, donne-moi d'entrevoir quelque peu. Seigneur, donne-moi de voir, de contempler quelque peu et de comprendre quelque peu ta pensée. Ta pensée est tellement plus grande que la mienne, Seigneur. Mais Seigneur, élargis-moi l'esprit, élargis-moi l'intelligence pour saisir les choses inexprimables. Et donne-moi le vocabulaire pour les dire, car je veux les communiquer aux autres, afin que, Seigneur, te contemplant à travers ta parole, ils puissent te voir et mieux te toucher et mieux t'aimer. Si la parole de Dieu doit être lue, si la parole de Dieu doit être écoutée, si la parole de Dieu doit être méditée, c'est afin de mieux le connaître et de mieux pouvoir l'aimer. Un homme qui ne lit pas la parole de Dieu, un homme qui n'est pas en contact avec lui par la prière, un homme qui ne cherche pas à le connaître et à sonder quelque peu l'Écriture, ne pourra jamais le connaître parce que il ne pourra jamais l'aimer. Ne pourra jamais l'aimer parce qu'il ne pourra jamais le connaître. Aimer Dieu, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel. J'espère que ces paroles vous ont poursuivi toute la semaine. J'espère que ces paroles vous ont frappé le cœur toute la semaine. Et même si je répète encore, et je répéterai toujours, parce que je voudrais que ces paroles soient gravées dans le cœur de chacun de nous et dans mon propre cœur. Gravées et qu'elles reviennent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il est impossible d'aimer notre prochain. Et j'aimerais aujourd'hui parler du deuxième commandement, qui est tout autant important. Il est deuxième par ordre, mais il n'est pas deuxième en importance. Car celui qui obéit à ce commandement, obéit à la loi. Nous l'avons lu dans les Romains. Ce n'est pas un commandement moindre, mais c'est un commandement qui est une conséquence du premier. Tout s'enchaîne, tout se rapporte l'un à l'autre. C'est un commandement qui est une conséquence du premier. Le premier est, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, conséquence du premier. L'amour, apprends-nous l'amour, Seigneur. Apprends-nous à aimer. Nous avons parlé de l'amour que Dieu attend de nous, de l'amour qu'il nous commande d'avoir envers sa personne. Nous avons vu que, à notre niveau humain, une impossibilité. C'est quelque chose qui est contre nature. Nous sommes des êtres finis. Nous sommes des êtres qui avons besoin de passer par nos sens pour pouvoir percevoir, pour pouvoir appréhender quelque peu ces choses abstraites. Nous essayons de les rendre concrètes. Et il y a des gens qui essayent tellement à rendre les choses spirituelles concrètes qu'ils tombent dans l'idolâtrie. Ils se fabriquent des dieux de leurs propres mains, des statues de saints ou autres. Et vous les voyez, ces pauvres s'agenouiller devant eux. Nous sommes incapables, sans le secours de Dieu, sans une intervention divine, de pouvoir l'aimer. Incapables. Alors lorsque une personne n'est pas née de nouveau, lorsqu'elle n'a pas reçu ce changement de vie, disons, cette nouvelle vie en lui, il cherche à se représenter Dieu, l'infini, et il le fabrique avec ses mains. Et Dieu ne le veut pas. Pour lui, c'est une abomination. Pour lui, il le rejette. Il ne le veut pas. Serait-ce même cette petite statue sainte, que tu appelles sainte à côté de ton lit ou dans ta chambre, ou cette petite niche que tu as quelque part, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Non, il n'y en a qu'un qui soit saint, c'est celui qui siège dans la gloire. Celui-là est saint. Il est le seul saint. Oui, aimer Dieu, c'est contre nature. Notre nature qui ne peut aimer sans voir, qui ne peut aimer sans toucher, sans entendre, sans pouvoir communiquer. Parce que pour nous, tout passe par les sens. C'est pour cela que le point de départ de toute vraie vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance. Oui, le terme est bien choisi. C'est une nouvelle vie qui commence. Une vie cachée, une vie intérieure, une vie qui vient de Dieu, une vie qui n'est pas de l'action humaine, qui n'est pas provoquée par l'action humaine, telle la vie physique, la vie dans le corps, qui demande l'action de papa et de l'action de maman, et qui est selon la volonté de l'homme, oui. Mais cette vie-là, elle est pourrie, elle est corrompue, elle est pécheresse. Il faut une vie nouvelle qui est une action divine, qui est d'une essence divine, une vie qui vient d'en haut. Et lorsque cette vie vient là et qu'il y a le changement, eh bien, c'est extraordinaire. Toi qui n'as pas passé par cette nouvelle naissance, tu ne peux comprendre ce langage étrange. Une nouvelle perception est donnée, une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension, un nouveau sens. Et nous pouvons parler et nous pouvons dire que nous voyons le Seigneur avec les yeux de la foi, que nous le contemplons dans sa gloire, que nous avons communion avec lui, que nous parlons et qu'il nous parle. Et c'est merveilleux ces instants que nous avons devant sa face. Lorsque nous sommes nés de nouveau, une nouvelle vie commence et il y a une croissance qui se fait, une croissance. S'il n'y a pas de croissance, alors il y a recul. Il doit y avoir croissance continuelle et tous les jours de notre vie ne suffisent pas à accomplir cette croissance, à parvenir à cette croissance constante. Il faut que nous soyons ambitieux dans notre vie personnelle pour croître de plus en plus afin de parvenir à son image. Il faut croître en lui. Et plus nous croîtrons en lui, plus nous le connaîtrons mieux. Oui, quand je compare dans ma vie les premières années, lorsque je suis né de nouveau, je n'étais qu'un enfant. Et plus tard, la vie s'est déroulée et l'expérience a grandi, en passant par toutes sortes de chemins, plus ou moins pénibles, plus ou moins joyeux. Et lorsque je passe et que je vois la route parcourue, je vois la grâce de Dieu envers moi et cette connaissance du Seigneur qui a grandi et qui a grandi par les circonstances, par les expériences, à travers la souffrance, à travers la joie, à travers les peines, à travers le combat. J'ai vu combien il est fidèle, et je l'ai connu, et je désire le connaître mieux encore, et je désire le connaître plus encore. Non, la vie, toutes les années que le Seigneur peut nous donner sont insuffisantes pour le connaître parfaitement. Mais il doit y avoir croissance, et alors que nous grandissons devant lui, cette expérience, cette connaissance grandit, elle doit grandir. Et plus elle grandit, plus alors nous sommes dans l'extase et dans l'étonnement. Si un jour je dois mourir, je voudrais mourir parce que voilà, il s'est tellement révélé à moi que mon corps et mon être tout entier ne peut plus supporter d'attendre et ne peut plus supporter la limitation de la chair. Je voudrais partir. Si je dois partir avant son retour, tout simplement parce que voilà, je suis arrivé à une limite de tolérance physique et humaine et j'ai besoin d'une autre dimension spirituelle dans un autre corps pour pouvoir mieux encore le toucher, pour pouvoir mieux encore être en communion avec lui. Ce corps est une barrière. Ce corps est un obstacle. Cette chair nous empêche encore, est une source de combat et de lutte. Mais alors que nous grandissons devant lui, nous nous sentons toujours plus près de lui, toujours plus en communion avec lui, jusqu'au jour où nous languissons. Quand, Seigneur, reviendras-tu? Quand irai-je auprès de toi? Seigneur, mon corps ne peut plus le tolérer. Et voilà, il est parti rassasié de jour. Alléluia, alléluia. Mais tout commence par la nouvelle naissance. Et par cette nouvelle naissance, nous avons communion avec lui. Nous avons contact avec lui. Nous pouvons le percevoir. Nous pouvons le voir. Nous pouvons le toucher. Celui que nous aimerons de plus en plus. Nous commençons à le connaître lors de la nouvelle naissance. Et notre sensibilité spirituelle se développera de plus en plus. C'est pour cela, n'admettez pas le péché. Ça vous fait reculer chaque fois. Jugez-vous vous-même. Ne laissez pas le péché vous submerger, vous prendre, vous piéger, vous freiner dans votre pèlerinage, dans votre marche avec Dieu. L'aimer est un privilège. L'aimer est une grâce. L'aimer est une joie débordante. L'aimer est un devoir de chacun de nous. Si nous l'aimons, alors cet amour aura des conséquences dans notre propre vie. Cet amour aura des conséquences dans ceux qui nous entourent, c'est-à-dire notre prochain. Et c'est ça qu'il veut dire dans son message. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Un, conséquence, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que celui-là. Souvent le Seigneur, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il s'adressait aux foules, il prenait pour texte de ses discours les préceptes de la loi morale. Bien souvent, dans ses sermons modèles de tous les modèles, il n'y avait pas de prédicateur. Il n'y a aucun prédicateur aujourd'hui qui peut le dépasser. Dans ses sermons donc, il n'y avait pas de ces discours abstraits, de super théologie, de théorie compliqué. Il n'y avait pas de ces démonstrations de points de doctrine sophistiqués. Le message de Jésus était simple. Il n'essayait pas à faire éclat de son érudition. Je souris toujours au-dedans de moi-même. Lorsque j'entends ces gens qui cherchent à vous faire une déclaration, et qui, connaissant le grec ou l'hébreu, vous sortent des mots de grec ou d'hébreu, si c'est juste ou si c'est faux, personne n'est capable de le dire. Nous ne savons pas ni le grec ni l'hébreu. Et puis après cela, ils vous en donnent la signification. Ça me fait toujours rire au fond de mon cœur. D'abord, si le mot qu'il prononce, est-ce qu'il le prononce bien? Est-ce que c'est vraiment cela? Personne ne peut le vérifier. Pas vrai? Je préfère de dire, par exemple, dans le texte original, la pensée veut dire ceci et cela, dans un bon français que tout le monde comprend. Jésus n'a jamais fait et essayé de faire étalage en disant un certain mot en grec ou en hébreu ou en araméen ou je sais pas quoi, pour dire voilà exactement selon les exégètes, selon ces... Bon, laissez-moi tranquille. Ce qu'il cherchait, Jésus, c'était dans la simplicité. Dans la simplicité de toucher le cœur de ses auditeurs pour les amener à la vérité. Il n'a pas jamais cherché à exposer la doctrine, et pourtant, il l'a fait. Lisez le sermon sur la montagne. Oh, aïe. Mais quelle simplicité dans ce sermon. Quelle richesse. Quand il parlait à la multitude, Jésus, il traitait des grands devoirs de la vie humaine, ce précieux fruit de l'esprit. Des grands devoirs de la vie humaine. Lisez le sermon sur la montagne, qui n'est d'autre que le comportement de cet homme de la nouvelle société qu'il est venu créer. Le comportement, la conduite, le standard qu'il exige pour ceux qui appartiennent à cette nouvelle société qu'il est venu créer. Il est venu créer comment? Cette société, par l'amour, en se donnant lui-même. Qu'il est venu inaugurer par sa vie, qu'il a offert en rançon sur la croix de Golgotha, afin de nous réconcilier avec lui-même, avec Dieu. Car lui, il est Dieu. La plupart de ses discours, des discours du Maître et de son ministère, fut employé à dire aux hommes comment ils devaient se conduire les uns envers les autres. La plupart de ses discours, c'est simplement une leçon qu'il donne aux autres, comment ils doivent se conduire. Nous le voyons dans la parabole du bon samaritain. Il n'y a pas que la parabole du bon samaritain, il y a encore d'autres récits dans la parole de Dieu, où il fait état de la conduite que nous devons avoir vis-à-vis de notre prochain. Sa morale était sévère, c'est vrai. Sa parole était tranchante, très tranchante. Ne disait-il pas un jour devant la foule, ne faites pas comme les pharisiens et les scribes, qui disent mais qui ne font pas. C'est plutôt tranchant, dites-moi, les pharisiens et les scribes qui étaient là ont dû être secoués. Ils l'ont détesté à cause de cela. Ne disait-il pas à ces hommes un jour devant eux, vous êtes des sépulcres blanchis, l'extérieur est beau, l'intérieur est plein de rapines, de pourriture, de sottises et de corruption. Parole tranchante que celle-ci. Il leur disait, vous jugez par l'apparence, par l'extérieur. Mais moi, je juge au cœur. Il leur disait, vous nettoyez l'extérieur du plat, mais l'intérieur est plein de corruption. Voilà comment Jésus prêchait la parole. Une parole tranchante, c'est vrai. Et cette parole tranchante ne plaît pas aujourd'hui. Ne convient pas à ce christianisme fade qu'on nous présente, qu'on veut nous servir. Ce christianisme sentimental. Oh, le petit Jésus. Notre christianisme, notre prédication est quelque chose de puissant, est quelque chose de viril, est quelque chose qui change la société. Ce n'est pas quelque chose pour les petits enfants avec le petit Jésus. Même pour les petits enfants, le petit Jésus n'est pas resté petit. Il était un homme fort. Il était un homme courageux. Il était un homme qui ne craignait pas la souffrance, dont l'amour débordant l'a mené à la croix. Il n'y a rien de plus viril que cela. Donner sa vie pour les autres. Voilà l'amour qu'il a manifesté pour nous. Voilà l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Mais ce christianisme sentimental, fade, qui aime l'apparence, seulement l'apparence, qui aime la mousse, qui embrasse la foi, seulement pour son côté abstrait,
Oui, j'ai la foi, oui, j'ai la foi. Mais les œuvres, où sont-elles?
Rien. Abstrait. Non, ce n'est pas ce genre d'évangile qu'il nous prêche. Ce n'est pas ce genre d'évangile qu'il a manifesté lorsqu'il est venu sur cette terre. C'était une foi active qui se démontre par les actions. Et c'est ce qu'il veut voir en nous. Mais ce christianisme d'aujourd'hui, fade, sentimental, d'apparence, fait bon marché de la foi pratique, vécue, de la foi démontrée par les œuvres. Ce n'est pas que nous soyons sauvés par les œuvres, non, parce qu'il est dit, nous sommes sauvés par grâce et par la foi, et non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais une fois sauvés, les œuvres doivent suivre. Où sont tes œuvres? Si tu es un enfant de Dieu, ceci doit être vu dans toute ta vie, dans ton parler, dans ton comportement, et dans ton amour pour ton prochain. Mais malheureusement, trop souvent, notre foi est une théorie, rien qu'une théorie, sans les œuvres. L'évangile de Christ, c'est un évangile pratique qui doit être vécu. Il n'est pas une théorie ou une doctrine, rien qu'une doctrine, aussi vraie soit-elle, aussi fondamentale soit-elle, il faut aller plus loin que la doctrine. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est pratique, ça c'est pratique. Oui, nos œuvres doivent être l'expression de notre foi. L'expression de notre... Je peux venir tous les dimanches, je peux écouter le culte, je peux taper des mains, je peux prier, je peux prophétiser, je peux faire tout ça et être le pire des patrons avec mes ouvriers, et être méchant et dur, et être exigeant et payer des salaires de misère avec lesquels je ne pourrais pas vivre moi-même, mais j'attends qu'eux vivent avec ce salaire de misère. Et en plus de cela, je suis exigeant. En plus de cela, je ne sais pas pardonner. En plus de cela, je suis méchant. En plus de cela, je leur pars durement avec méchanceté. Et je suis pire qu'un tribun. Et tu viens dans la maison de Dieu et tu dis, Dieu, je t'aime. Non, tu n'aimes pas Dieu. Dès l'instant où tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas Dieu. Alors que tu pourrais payer un salaire plus décent. Personne ne demande même pas Dieu que tu ruines ta société pour payer de gros salaires à tes ouvriers. Non, ce serait stupide. Mais Dieu te demande de payer des salaires qui correspondent à tes bénéfices et au travail de ceux qui t'aident à rentrer cet argent. Honte pour toi, patron. Honte pour toi. Tu vis large vie. Tu festoies. Tu as tout ce qu'il te faut. Mais ton propre sentinelle doit te supplier pour être payé de ces quelques 100 000 zaïres. Il est là dans sa misère et dans ses haillons, et toutes les nuits, il est à côté de son petit feu, et tu le regardes de la hauteur de ta suffisance, c'est un pauvre petit mouyaka. Il ne sait pas lire et il ne sait pas écrire. C'est ton prochain! Voilà ce que c'est! Ça peut être un pygmée, mais c'est ton prochain! Ça peut être une tribu que tu n'aimes pas, mais c'est ton prochain. Après tu te plains. Tu te plains, oh ces gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui disparaissent. Mais il a besoin de manger. C'est pas vrai? Les œuvres de la foi, où sont-elles? Les œuvres de la foi, où sont-elles? Non, frères et sœurs, même si je ne vous plais pas, ça m'est égal. Il faut dire la vérité. Et il faut que cette vérité nous change notre attitude envers notre prochain. Le monde serait meilleur s'il y avait plus d'amour du prochain. Parce qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu, il n'y a pas d'amour pour le prochain. C'est ainsi qu'à l'exemple du maître, les ministres de l'Évangile sont tenus d'avertir les hommes de leur devoir. Jésus, chaque fois qu'il a prêché, il avertissait les hommes de leur devoir. Et leurs devoirs sont très bien décrits dans la loi de Moïse. Oui, nous devons tout autant proclamer le salut par grâce, le salut en Christ, que le devoir vis-à-vis de notre prochain. Il n'y aura que peu d'âmes qui comprendront la nécessité de l'expiation, la nécessité du sacrifice, du prix à payer pour que ce salut soit rendu possible. Nous devons prêcher le devoir. Et nous avons des devoirs vis-à-vis de notre prochain. Nous ne sommes pas seuls sur la terre, non. Chacun doit vivre pour l'autre. Oh oui, je sais, nous ne sommes pas sauvés par la loi. Du reste, Jésus le disait, et l'apôtre Paul en a parlé. Personne n'est sauvé par la loi et personne ne peut être sauvé par la loi. Mais si nous ne faisons pas retentir les tonnerres de la loi qui veut l'obéissance en tout, personne ne serait convaincu de péché. Personne ne crierait pour la grâce de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle et prêche sur la loi. Il est la grâce, Jésus. Mais remarquez combien de fois il prêche sur la loi. Lisez le sermon sur la montagne et il reprend la loi. Et il corrige la fausse interprétation de la loi par les pharisiens et les scribes et leurs docteurs de théologie qui ont dévié dans leur enseignement. Lisez! Oui, mais personne ne peut être sauvé par la loi! Nous le savons. Mais la loi, c'est un pédagogue. Pas moi qui le dis, c'est la Bible. La loi nous montre ce que c'est que le péché. La loi nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles. Tu serviras l'Éternel ton Dieu seul. Si la loi ne disait pas cela, je ne le saurais pas. Et je ne serais pas coupable d'adorer des idoles. Je ne serais pas coupable d'avoir des statues dites saintes dans ma maison. Je ne serais pas coupable d'avoir des soi-disant médailles pour me protéger. Je ne serais pas coupable. Mais dès l'instant où la loi me révèle ce qui est mal, je deviens coupable si je le fais. Alors, j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Et c'est ce que je disais la semaine passée, dimanche passé. Sans intervention de Dieu, qui peut être sauvé? La loi nous dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car Dieu ne tiendra pas pour impuni celui qui utilise son nom en vain. Ah! Maintenant, puisque la loi me le dit, chaque fois que j'utilise le nom de l'Éternel mon Dieu en vain, je sais que je pêche. Oh mon Dieu, je suis en retard. Tu utilises son nom en vain. Tu es là, tu jures par son nom, alors que tu sais très bien que tu mens. Oh, c'est la vérité de Dieu! Et tu es le plus grand des menteurs. Tu utilises son nom en vain, encore tu blasphèmes. Tu marches sur la route et tu cognes le pied à une pierre, ou tu laisses tomber le bagage que tu as à la main. Oh mon Dieu, je vais tout casser. Tu utilises le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Ah! Si la loi ne l'avait pas dit, alors je serais innocent. Mais la loi m'a révélé que Dieu ne tiendra pas pour impuni celui qui utilise son nom en vain. Autrement dit, parce que tu utilises son nom en vain, pour n'importe quoi, tu blasphèmes et il te punira. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Oh! Oh, j'ai besoin d'un sauveur. Oh, j'ai besoin d'une intervention divine, car j'ai violé. La loi dit encore, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu sanctifieras le septième jour. Et aujourd'hui, on s'en moque pas mal du jour du repos. Et aujourd'hui, dans les pays qu'on appelle chrétiens, de plus en plus on ouvre les magasins et on fait les affaires. Mais la loi dit, honore ton père et ta mère. Si tu les honores, je prolongerai les années de tes jours sur la terre. Ah, papa, maman, c'est ça. Mais aujourd'hui, dans notre nouveau monde, dans notre génération, on appelle les parents des croulants. On appelle les parents les vieux. Et on se moque d'eux, on leur se moque de la discipline, on se moque de ce qu'ils peuvent vous dire. On les regarde comme étant des arriérés. On n'a même pas de la politesse vis-à-vis d'eux. On écrase leur cœur. C'est pour ça, aux jeunes hommes, aux jeunes filles, tu risques de mourir jeune. Ton père et ta mère sont peut-être loin de Dieu. Peut-être qu'ils font des choses mauvaises. C'est vrai. Mais toi qui connais le Seigneur, tu dois les aimer d'autant plus pour essayer de les attirer à Dieu. Tu dois les aimer, les entourer, leur parler, supporter, les aider. Oui, tu le dois. Si tu vis sur cette terre, c'est à cause de papa et maman. Et à cause de papa et maman, tu as hérité maintenant la vie éternelle. Parce que tu as vécu, ils t'ont donné la vie. Souviens-toi de cela. Et même s'ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas le Seigneur, tu dois les aimer de telle façon qu'ils soient attirés à Jésus-Christ. Vous avez un devoir vis-à-vis de votre père et de votre mère, enfant. Vous m'entendez? Puisque vous connaissez le Seigneur. Oui, tu ne commettras pas d'adultère. Si la loi n'avait pas dit tu ne commettras pas d'adultère, je pourrais très bien convoiter la femme de celui-ci, elle est tellement belle. Je pourrais très bien prendre la fiancée de celui-là. Elle est tellement belle. Je pourrais très bien courir après tel autre et tel autre. Ou celui-ci, ou celui-là, ou celle-ci, ou celle-là. Mais la loi dit non, tu ne commettras pas adultère. Ainsi la loi me révèle la volonté de Dieu. Et Jésus dit aussi que celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis adultère avec elle. Qui donc peut être sauvé? Il faut l'intervention de Dieu. Il faut que Dieu intervienne. Autrement, c'est pas possible. Autrement, nous sommes tous perdus pour l'éternité. Dieu demande quelque chose d'impossible. Oui, mais il a rendu possible à travers Jésus-Christ. Tout ce qu'il te demande, c'est de te repentir et de changer. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. On tue aujourd'hui, pas seulement en versant le sang, mais on tue avec la langue, on tue la réputation des autres, on détruit leur réputation, on dit toutes sortes de mal sur eux, des choses mauvaises, injustifiées, fausses, méchantes, par jalousie, on les tue. On les tue par les puissances sataniques, par les puissances occultes, on les tue par le poison, on les tue par le couteau, on les tue par le poison, par les armes, on tue. Dans le monde entier, dans notre ville de Kinshasa, peut-être y a-t-il des criminels ici ce matin. Comment vivre alors, maintenant que je sais que c'est mal? Je le savais, la société le sait, bien sûr. Mais plus que jamais encore, Dieu me frappe. Oui, Dieu te frappera encore plus. C'est pour cela qu'il t'appelle à la repentance. Car il a pourvu par un chemin que la loi ne pouvait donner. Mais lui, il a donné parce qu'il t'aime. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point, tu ne voleras point, tu ne voleras point, tu ne voleras point. Il faudrait qu'on mette ça sur tous les pancartes de la ville de Kinshasa. Enlevez-moi toutes ces publicités qui ne valent rien. D'abord, c'est mensonge la plupart du temps. Et écrivez ce verset. Tu ne voleras point, tu ne voleras point. Je suis fatigué de ces vols. Je suis fatigué de ces vols. 5 de nos micros ont disparu ici dans cette église. Des voleurs viennent ici au milieu de nous. Des voleurs s'assoient sur nos chaises. On vole les tubes de néon, on vole les fils électriques, on vole tout ce qu'on peut voler. On vole du bois, on vole des planches, on vole... Il faut que tout le monde se fasse policier. Il faut que tout le monde soit des gendarmes. J'en ai assez d'aller ailleurs, partout, pour essayer de redresser les torts. Discipline, discipline. Que les gens du dehors volent, mais que les gens du dehors, dedans volent, non. Pas d'accord. Pas d'accord. Que les gens qui prétendent être des enfants de Dieu volent, non. Pas d'accord. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu ne voleras point, c'est-à-dire tu ne prendras point, tu ne prendras pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà ce que c'est que le vol. Si j'ai mon crayon ici sur la table, si je l'ai posé là sur le haut-parleur, tout le monde doit sortir, et quand tout le monde est sorti, tout d'un coup je dois retrouver mon crayon. Ah, je l'avais laissé là. Vous me comprenez? Parce que vous savez que ce crayon ne vous appartient pas. Et vous ne vous permettez pas de prendre ce crayon. Parce que si vous êtes capable de prendre ce crayon, c'est-à-dire de le voler, c'est le mot, vous êtes capable aussi de voler les micros. Vous êtes capable aussi de voler les tubes de néon. Vous êtes capable aussi de voler 10 000 dollars. Vous êtes capable de voler n'importe quoi. Où est ta conscience? Devant Dieu, je le dis avec vérité, je n'ai jamais volé quoi que ce soit dans toute ma vie. J'ai peur. Je crains. Il est vrai que j'ai connu le Seigneur très jeune et que ceci a été inculqué dans mon cœur. Et je rends grâce à Dieu. Et si vous avez volé, c'est parce que vous ne saviez pas autrefois. Mais maintenant, vous connaissez et la vie doit être changée. Si votre foi est vraie, cette foi doit se suivre par les œuvres. Vous m'entendez? Il faut changer. Si vous ne changez pas, les voleurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Je demande à Dieu que ceux qui ont volé ces micros, eh bien qu'ils soient tourmentés. Je demande que le Seigneur les tourmente. Oui, les tourments, qu'ils ne leur restent pas la paix. Et même s'ils ont déjà les ont vendus, qu'ils soient ici ou qu'ils soient pas ici, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne crois pas que ce sont ces gens qui travaillent avec consécration ici au milieu de nous qui l'ont fait. Non, non, non. Mais nous avons manqué parce que nous n'avons pas veillé. Voilà pourquoi. Il faut veiller. Il faut veiller. Mais je demande au Seigneur qu'il les tourmente et que ces gens viennent en larmes ici. Même s'ils les ont vendus, qu'ils viennent en larmes confesser. J'ai déjà pardonné. J'ai déjà pardonné. Mais eux ne sont pas pardonnés encore. N'est pardonné que celui qui reconnaît son péché et qui le confesse. Il est dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ah! parce que tu aimes ton prochain, tu vas pas donner des faux témoignages contre lui. Tu vas ne dire que la vérité. Tu vas dire ce qui va lui faire du bien. Il a des défauts, ton prochain, c'est vrai. Mais tu mettras le doigt sur le positif et non sur le négatif. Tandis que nous, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous manquons d'amour pour notre prochain, nous mettons le doigt sur tout le négatif. Tout, tout, tout. Nous savons le souligner, le faire remarquer. Et nous faisons mal. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ni la femme de ton prochain, ni son argent, ni ses biens, ni sa voiture, ni son compte en banque, ni sa position sociale. Tu ne convoiteras rien de ton prochain. Si la loi ne parlait pas de la sorte, nous aurions par conséquent aucun péché. Qu'est-ce qui nous a fait connaître le péché? C'est la loi. Mais la loi ne peut nous sauver. Mais nous reconscient du péché, elle nous fait pleurer. Oh, puissions-nous pleurer au pied de la croix et crier au Seigneur, use de compassion envers moi, Seigneur, et sauve-moi. La loi nous dit, tu as transgressé. Et parce que tu as transgressé, tu mourras. Mais Jésus nous dit, je suis mort à ta place. Viens à moi. Et si tu confesses ton péché, je te pardonnerai. Dans son discours, Jésus énonce le premier et le second commandement. Le premier commandement, c'est avec Dieu, d'abord. Et l'homme vient après. Dieu est toujours en toute priorité. Et l'homme est en second plan. Mais l'homme rebelle veut occuper la première place. Regardez dans Romains 1, 25, il est dit, en parlant des infidèles, eux, ces infidèles, ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Autrement dit, ils ont placé la créature au lieu du Créateur. La créature en premier, nous le voyons dans notre monde aujourd'hui avec toutes les vedettes, avec toutes les stars de cinéma, les stars du rock, les stars de la musique, les stars du théâtre, les stars de la politique, le culte de la personnalité, les idoles que l'on voit dans le monde, on a placé la créature avant le Créateur. Pauvre monde, nous vivons dans un temps où ce commandement est bafoué, où ce commandement est rejeté, où ce commandement est méprisé. Tu aimeras ton prochain, à quelle mesure? Comme toi-même. D'abord, tu aimeras Dieu, plus que toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, c'est-à-dire tu l'aimeras plus que ta propre vie. Voilà comment tu dois aimer Dieu. Ensuite, tu aimeras Dieu plus que toi-même, et ensuite tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les exigences envers le prochain sont peut-être un peu moindres que les exigences envers Dieu. Mais ceci n'empêche pas que c'est un commandement divin, et que ce commandement fait partie d'un tout. Il fait partie de ce fondement de la foi. Car Romains nous dit que lorsque nous aimons notre prochain, nous accomplissons la loi. Pourquoi? Parce que je ne peux pas aimer mon prochain sans aimer Dieu aussi. C'est facile d'aimer un ami, pas difficile. L'homme le plus méchant aimera son ami. Mais aimer ses ennemis, mais aimer ceux qui ne sont pas aimables, là, il faut d'abord, la première dimension, aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous aimerons notre prochain, quel qu'il soit. L'exigence est à la mesure de l'homme. Dieu dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, celui que tu vois, celui que tu touches, celui auquel tu parles, celui avec lequel tu es chaque jour. Tu l'aimeras comme toi-même. Quelle peine nous avons d'aimer notre prochain selon cette mesure-là, n'est-il pas vrai? Mais qui est mon prochain? Ce mot de prochain nous parle de voisin, nous parle de semblable. Notre prochain, c'est celui que je côtoie tous les jours. Sache que si tu violes ce deuxième commandement, tu deviens violateur du premier. C'est un tout. Tout cela s'embrique l'un dans l'autre. Il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer son prochain, fait à l'image de Dieu. Mais qui est donc ce prochain? Du reste, telle était la question de ce docteur de la loi que Jésus enseignait. Qui est mon prochain? D'abord, il a posé cette question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Un docteur de la loi, un docteur en théologie, vous voyez? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors Jésus lui dit, mais qu'est-il écrit? Qu'est-il écrit? Qui lis-tu dans la loi? Alors il répond, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu. C'est bien. Et il lui dit, fais cela et tu vivras. Alors, cet homme de dire, qui est mon prochain? Si tu veux vivre, tu dois obéir à ce commandement. Si tu veux vivre, tu dois se soumettre à ce commandement. Aide-moi Dieu et aide-moi ton prochain. Mais qui est mon prochain, dit-il? Alors Jésus commence à énoncer cette parabole, bien connue. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, ô Jérusalem, ville du grand roi, ville qui a été prise par David il y a 3000 ans de cela. Il est venu de Hébron, il a fait la guerre aux Jébusiens. Il a pris la ville de Jérusalem et il en a fait sa capitale il y a 3000 ans. Et c'est là que Dieu a fait résider son nom. Il a choisi cette place, cette capitale, parce que là, sur cette montagne où se repose Jérusalem, il y a une source d'eau qui jaillissait et qui jaillit jusqu'à aujourd'hui. C'est là que le Dieu des cieux a fait habiter son nom. C'est là que le temple a été construit et que l'arche de l'Alliance repose. C'est là que le peuple de Dieu et que les prophètes ont marché dans ces rues. Jérusalem, ville du grand Dieu, du grand roi, ville qui sera dans toute sa splendeur pendant ce règne de 1000 ans du Messie à Jérusalem, lorsqu'il s'assiera sur son trône et que toutes les nations viendront pour se prosterner devant lui et apporter leurs richesses devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ville bénie entre toutes, ville contestée par toutes les nations, ville où toutes les nations veulent dire leur avis, donner leur avis, et soi-disant cela partager. Attention, quand vous touchez à Jérusalem, vous touchez à la prunelle de l'œil de Dieu. Jérusalem n'appartient pas aux Juifs, elle appartient à Dieu, et Dieu la donne à qui il veut. Et il l'a dit, c'est là que résidera son nom, et c'est là qu'il y aura la gloire d'Israël. Il descend, et il dit, de Jérusalem à Jéricho. Oh, un homme qui ne fait pas la volonté de Dieu, il descend toujours. Il quitte la ville du grand roi pour descendre dans la ville de Jéricho, la ville maudite. Elle est plus bas que le niveau de la mer. Un soleil terrible, aride et chaud, la poussière est partout. La ville est sale. Elle avait été prise par les Israélites à travers une action miraculeuse de Dieu. Et Josué a dit, celui qui posera les fondements de tes murs, les poseront sur ton premier-né. Et celui qui posera tes portes sur son dernier-né. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La ville maudite, Jéricho. Et quand on descend, il y a toujours l'ennemi qui est là pour nous voler, nous détruire. Il tomba entre les mains d'un voleur, des voleurs et des brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, est-il dit. Voilà l'œuvre de Satan, l'œuvre du voleur. Il vole tout. D'abord, il prend tout ce qu'on a, il enlève la joie, il enlève la paix, il enlève le bonheur, il enlève la santé, il enlève même la jeunesse, les jeunes qui sont vieux avant l'âge. Il enlève la respectabilité, il enlève la force, il enlève tout et il donne autre chose, il donne des coups. Maladie, péché, pauvreté, lâcheté, misère, sida, mépris, plus de dignité, blessure, meurtrissure. Et ils le laissèrent à demi-mort. Pourquoi? Parce qu'il descend. Voilà ton prochain, c'est ce que Jésus disait. Sachez que les voleurs du monde entier, quels qu'ils soient, ils ont leur philosophie. Et leur philosophie, c'est la philosophie de Satan. Cette philosophie du voleur et des voleurs de toute la terre, jusqu'aux voleurs qui viennent ici à la borne, c'est celle-ci. Ce qui est à toi est à moi et je vais le prendre. Ça, c'est la philosophie de Satan. Et sache que si tu es voleur, tu es dans les mains de Satan. Sache que si tu es voleur, tu es dominé par Satan et tu fais partie de son camp. Jésus continue la parabole et il dit, un sacrificateur qui, par hasard, descendait. Ah, il descend lui aussi. Il est sacrificateur, il est un chef religieux, il a les atours de la religion, les distinctions extérieures, mais il descend. Sur cet affreux chemin poussiéreux. Je sais, j'y étais il n'y a pas si longtemps sur ce chemin-là. Au milieu du désert, la poussière plus de 40, 45 degrés de température. Qu'est-ce qu'il va chercher à Jéricho? Personne ne le connaît là. Peut-être qu'il a quelques petites amies. Peut-être qu'il y a quelques 10 heures de bonne aventure ou quelques bénéfices à faire avec les gens de Jéricho. Il descendait, ayant vu cet homme à demi-mort sur la route, la Bible nous dit, il passa outre. De même, un Lévi qui sert dans la maison de Dieu, qui offre les sacrifices, qui porte l'arche de l'Alliance, qui ferme les portes du temple et qui les ouvre, et qui surveille le temple et le culte. Un Lévi, un homme de la religion, qui a les atours de la religion. De même, il est dit, il descendait. Il descendait. Et il voit cet homme à demi-mort, et il passa outre. Il est dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Ah, tu aimeras ton prochain. Proverbe 3, 27. Ce n'est pas de l'argent qu'il faut là. Non, mais c'est de la compassion. Mais ils n'ont pas de compassion. Ils sont égoïstes. Ils ne veulent pas s'écarter de leur chemin. Ils ne veulent pas perdre du temps. Ils vont à Jéricho pour un but et ils veulent poursuivre leur but. Et il y a 30 kilomètres à faire à pied pour aller jusqu'à Jéricho. Sous le soleil, la chaleur, la poussière, que vais-je m'arrêter? D'abord, il est presque mort alors qu'il continue à mourir. Est-ce que l'homme de Dieu parle ainsi? Personne, du reste, n'est témoin de leur action. Peut-être que s'il y avait eu des spectateurs, ils se seraient arrêtés et ils auraient aidé le pauvre malheureux. Pourquoi? Ils ne le font pas pour lui, ils le font pour eux-mêmes. Pour que tout le monde dise, qu'est-ce qu'ils sont bons. Pour que tout le monde dise, regardez comme ils sont généreux. Mais il n'y a personne pour les applaudir. Alors, à quoi ça sert? Ils passèrent outre. Pas d'amour pour le prochain. Ces deux responsables religieux descendaient. Ils ont aussi leur philosophie, eux. Et quelle est leur philosophie? Ce qui est à moi, et je le donne à personne. Voilà. Voilà la philosophie de tous ceux qui refusent de rendre témoignage et qui ferment leur bouche et qui gardent le don précieux que Dieu leur a donné dans leur cœur et qui ne veulent pas le faire partager par les autres, qui refusent d'être différents. Ils voient les demi-morts qui sont autour d'eux, mais ils sont indifférents vis-à-vis de ces demi-morts. Ce qui est à moi et je le donne à personne. Pas d'amour du prochain, ni de Dieu. Égoïsme, indifférence, dureté de cœur, méchanceté. Égocentrisme. Quand il n'y a pas d'amour pour Dieu, il n'y a pas d'amour pour le prochain. Et ils démontrent ainsi qu'ils n'ont pas d'amour pour Dieu. On descend sur la route, quoique religieux. Tu peux très bien aller en enfer avec ta croix au revers de la veste. Tu peux très bien aller en enfer avec ton col ecclésiastique. Tu peux très bien aller en enfer avec ton doctorat en théologie. Si tu n'as pas d'amour du prochain, tu n'as pas d'amour pour Dieu. Et Jésus continue. Il part toujours du prochain. Et il dit, mais un Samaritain qui voyageait, il n'est pas dit qu'il descend, regardez, un Samaritain qui voyageait, un Samaritain, vous voyez, un Samaritain, qui sont les Samaritains? Les Samaritains, ce sont des gens qui sont méprisés par les Juifs, des gens qu'on considère comme de rien. Pourquoi? Qui sont ces Samaritains? Eh bien, vous vous souvenez quand Nebuchadnezzar avait envahi la Judée et la Samarie, avait envahi Israël et la Judée. Il avait pris en captivité tous les cerveaux, tous les hommes intelligents, tous les ingénieurs, tous les littéraires, tous les hommes capables, tous les hommes instruits, et les avait déportés à Babylone. Il n'avait laissé que le petit peuple, hein, qui n'était pas instruit, qui ne savait pas lire, pas écrire. Mais comme le pays était vide, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé des peuples d'un peu partout. Et il les a mis là. Et ils se sont intermélangés, intermariés. Et ils ont même fabriqué leur religion, mélangée avec le judaïsme et leur culte païen. Et c'est ce qu'on a appelé les Samaritains. Si bien que les Juifs les ont toujours méprisés et rejetés à cause de leur religion, à cause de leur ethnie, à cause de leur mélange, à cause de tout cela. Mais Jésus, il aime les Samaritains. Et le Samaritain, c'est ton prochain. Ce Samaritain, il voyageait. Il est la race méprisée. Il est la minorité ethnique. Il est le non-conformiste religieux. Il ne suit pas tout le monde. Lui, il a sa foi dans son Dieu. Et sa foi pour lui, c'est les œuvres qu'il fait parce qu'il croit. Il est l'homme simple. Il est apparemment le non-éduqué parce qu'il n'est pas docteur en théologie. Il est habillé simplement, il n'est pas sophistiqué. Il est différent des autres, mais il est dit, il fut ému de compassion. Ô sentiment d'un cœur généreux, la compassion. Ô émotion envers un demi-mort qui est là sur la route, un demi-mort. Compassion pour celui qui a besoin d'un autre. Ô amour qui se traduit par des œuvres, pas de paroles inutiles, rien. Il descend de sa monture et il rentre en action. Sous ce soleil implacable, il voit cet homme, il le sent, son cœur bat encore. Le soleil lui tape dessus, ses blessures sont là, elles s'en coulent. Mais il banda ses plaies, il les nettoya avec du vin, il mit de l'huile dessus pour adoucir. Il le mit sur sa monture et lui il marcha à pied en le tenant. Sous ce soleil implacable, il marcha ainsi jusqu'au moment où il a trouvé une hôtellerie. Il le fit coucher là, il prit soin de lui, il lui donna de l'eau à boire.